RCF. Jean Vanier, merci de nous accueillir dans cette communauté de l'Arche que vous avez fondée en 1964. C'est ici, à Trolly-Breuil, près de Paris, qu'a commencé cette belle aventure de vie en communauté avec des personnes handicapées mentales. L'Arche compte aujourd'hui 109 communautés dans une trentaine de pays. Jean Vanier, vous êtes canadien. Votre père était le gouverneur général de ce pays. Et avant de fonder l'Arche, vous avez été officier de marine, puis professeur de philosophie. Est-ce que votre enfance, votre milieu familial, vous avait préparé au contact avec les personnes handicapées mentales?
Je tendrais à dire non. La vie familiale qu'on avait est une vie chrétienne, avec tout un élément de vie morale, d'éthique. Une vie orientée vers les choses qu'il faut faire et le succès, quelque part. Mais on était aussi très marqué par la guerre, parce qu'on était en France en 1939, quand la guerre a éclaté, et en juin 1940, on était quand même sur les routes, et on s'est échappé de Bordeaux sur un contre-torpilleur anglais pour aller en Angleterre.
Mais il n'y avait pas de personnes handicapées dans votre famille,
non,
ou dans votre entourage?
Non, rien. Et je ne peux pas même dire qu'il y avait une orientation très profonde vers les personnes démunies. Mes parents étaient très profondément chrétiens et maman très profondément spirituelle, vivant une réelle vie de prière. Mais je ne peux pas dire qu'on était orienté d'une façon particulière vers des personnes démunies.
Et ce n'est pas non plus votre travail d'officier de marine qui vous préparait
non,
à cela?
Non. Mais je crois que progressivement, des choses sont nées en moi, que vivre l'Évangile impliquait cela. Je rappelle, j'étais officier de marine et mon dernier bateau était une porte-avions canadienne. Et j'ai fait une collecte là et à Noël, on a apporté beaucoup de nourriture à des gens dans la ville d'Halifax. Donc, il y avait quelque chose en moi. Et j'avais été profondément touché par une communauté dont parle Thomas Merton dans son livre sur sa conversion, où il avait vécu un certain temps parmi le peuple noir de Harlem à New York. Et personnellement, j'ai visité cette communauté. J'étais très profondément remué par cette communauté dans un très très bon sens. C'était des chrétiens. C'était fondé par Baroness de Hoek, qui écrit Poustinia et qui a fondé la communauté de Combemire. Et c'était une communauté très forte, très enracinée dans la présence aux pauvres. Donc il y a des origines qui remontent assez loin, là.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine qui vous a mis en contact avec les personnes handicapées, les difficultés qu'elles rencontraient?
Ça, c'est encore une longue histoire, parce que j'ai quitté la marine en 1950. Je suis venu en France. J'ai vécu dans une petite communauté fondée par le père Thomas Philippe, dominicain, près de Paris, près du Sauchoir. Nous avons vécu une vie très pauvre, une recherche philosophique et théologique, et une vie de prière. Et cette communauté, l'eau vive, m'a beaucoup marqué, et en particulier la personne du père Thomas. Il m'a beaucoup nourri, il est devenu mon père spirituel. Alors, il m'avait beaucoup conseillé de faire un doctorat de philosophie. J'avais fait donc un doctorat en Aristote, sur Aristote. Ça m'a amené à enseigner la philosophie à l'Université de Toronto, au Canada. Et puis, En 1963, le père Thomas est devenu l'aumônier d'une petite centre qui s'appelle le Val-Fleury, qui est dans ce village, où il y avait une trentaine de personnes avec un handicap mental. Et lui a été très, très ému par ces hommes, c'était que des hommes, qui, très fragiles dans leur être, beaucoup avaient vécu à l'hôpital psychiatrique, quelques-uns avaient vécu en famille, et à cette époque-là, il y avait très peu d'école pour des personnes avec un handicap. Enfin, il y avait beaucoup plus de détresse à cette époque-là. Et le père Thomas était très touché. Enfin, je crois qu'il a mis le doigt sur les paroles de saint Paul, que Dieu a choisi le fou et le faible pour confondre les sages et les forts. Et j'enseignais à ce moment-là, il a suggéré que je vienne le rencontrer, que je rencontre les hommes. Et ça aussi, ça m'a touché. Je suis venu inquiet, parce que comment est-ce que j'entrais en contact avec des hommes qui n'avaient pas fait de la philosophie, qui n'avaient pas été dans la marine, de quoi est-ce qu'on parlerait? Surtout s'ils ne parlaient pas, quel contact, quelle communication.
C'était votre premier contact avec des personnes handicapées?
Je dirais oui, enfin bon, il y avait telle ou telle autre petite chose, enfin de rencontre, mais ça c'était vraiment la première rencontre réelle. Mais j'étais touché parce que chacun, quelque part, poser une question fondamentale: est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'acceptes comme je suis? En santé, des hommes assoiffés de relations, de communication et d'amitié. Ça, c'était clair. Puis en même temps, leur souffrance évidente. Il y avait des gens épileptiques, il y avait des gens qui avaient de la diabète, enfin il y avait... Et on sentait aussi à travers leur visage et leur corps une autre question très fondamentale qui est pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne peux pas rester avec maman et papa? Alors ça m'a amené à visiter des hôpitaux psychiatriques, en particulier le Prémontré, qui est plutôt semblable à l'hôpital psychiatrique de Clermont, qui est à 40 km d'ici. À cette époque, Clermont, il y avait 4000 malades, dont 2000 avec un handicap mental, ou 2000, ce qu'on appellerait chroniques, qui resteraient toute leur vie à l'hôpital, et parmi les 2000, 1000 ayant un handicap mental. Ils étaient dans des dortoirs d'une vingtaine, quarantaine de personnes, pas de travail, enfin c'était des situations lugubres, douloureuses et violentes.
Et c'est ce cri primal, vous avez utilisé cette expression parfois, est-ce que tu m'aimes, que vous avez entendu à ce moment-là et qui vous a donné envie de
fonder large? Oui, il y avait sûrement le cri primal. Il y avait là quelque chose qui était de « je ne comprenais pas ». Et à la fois, j'avais touché la beauté de ces hommes et en même temps, l'horreur des hôpitaux psychiatriques à cette époque-là, malgré des gens très gentils, mais il y avait un sentiment que les personnes avec un handicap étaient des non-humains.
Et ça m'a touché. Vous avez perçu leur beauté tout de suite?
Oui. Quand j'ai visité le Val-Fleury, et bien sûr aidé un peu par le père Thomas, il y a quelque chose de très pur dans leur cri pour l'amitié. Et c'est, je ne sais pas ce que je veux dire, pas tout à fait là par pureté, mais de confiance, de simplicité, d'ouverture. Enfin, mes étudiants en philosophie aimaient ma tête. Je sentais que les personnes avec un handicap aimaient ma personne. Ils voulaient rejoindre, je dirais, mon cœur et mon être. Alors c'était une nouvelle expérience pour moi qui atteignait des choses assez profondes en moi.
Jean Vanier, vous venez de dire il y a un instant, il me fallait découvrir que les personnes handicapées avaient quelque chose à m'apporter. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait découvrir? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté depuis 1963?
Je dirais d'abord que moi j'étais un homme assez fort, très autonome, capable, efficace. Toute ma vie dans la marine, je suis entré dans la marine à 13 ans et toute notre formation est une formation vers la rapidité, l'efficacité.
À l'image du monde d'aujourd'hui.
À l'image du monde d'aujourd'hui. Et la même chose au niveau de la philosophie. Je crois que j'ai fait des bonnes études de philosophie. J'ai beaucoup travaillé. J'ai fait une bonne thèse. Enfin, j'étais quelqu'un reconnu. Donc, au début, avec Raphaël et Philippe, j'étais un initiateur, un créateur, je faisais des choses. Et progressivement, j'ai découvert qu'il fallait que je ralentisse, que ce que Raphaël et Philippe demandaient, c'était une relation, il s'agit de l'amitié. Et à la limite, il fallait perdre du temps avec eux, il fallait devenir l'ami. Dans l'évangile, il y a un autre petit texte qui est très, très symptomatique. Quand Jésus dit, quand vous donnez un repas, n'invitez pas les membres de votre famille, n'invitez pas vos riches voisins, n'invitez même pas vos amis. Et quand vous donnez un très bon repas, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles, et vous serez bénis. Donc, ce texte de l'évangile, c'est pratiquement veut dire devenir l'ami de l'exclu. Et c'est vrai que quand on devient l'ami, c'est-à-dire une relation cordiale, quelque chose change en soi-même. Quand vous devenez l'ami d'un exclu et que vous entendez son histoire, quand vous voyez sa souffrance, ce qu'il a enduré, ce qu'il a supporté, la façon dont les gens l'ont traité, ça change beaucoup. Je dirais, c'est la même chose dans l'écuménisme, quand on devient un ami profond, de quelqu'un qui est d'une autre église, ou quand vous devenez un ami profond d'un musulman ou d'un juif ou d'un hindou, ça change des choses parce que...
Mais ça nous dérange.
Ça nous dérange parce qu'on est fabriqué, chacun de nous, pour qu'on devienne fort et qu'on sait qu'on a raison et qu'on veut gagner. Et puis quand on rencontre une autre personne cordialement, pas comme un musulman, pas comme une personne avec un handicap, mais on est devant un autre être humain qui a souffert. Alors des choses changent. Et la phrase que tu dis là, oui, on est dérangé, dans le sens que l'ordre qu'on avait, on était rangé d'une certaine façon, et soudainement on est dérangé, c'est-à-dire que l'ordre intérieur est changé. Et je commençais à découvrir, je dirais, la cruauté de nos sociétés, l'intolérance de nos sociétés, l'épouvantable lieu où les personnes avec un handicap étaient parquées. Alors, à ce moment-là, une prise de conscience du mal qui est dans nos sociétés, les préjugés qui sont là, pas seulement dans la société, mais moi je fais partie de cette société, je voyais les préjugés qui sont en moi. Et il fallait aussi découvrir qu'il fallait que je change, que je bouge de celui qui croyait que l'intelligence était parmi les choses les plus importantes, à la découverte que ces hommes qui n'avaient pas pu développer leur intelligence étaient des êtres humains très importants, très proche de Dieu, peut-être beaucoup plus proche de Dieu que moi, et que j'avais quelque chose à apprendre d'eux.
Jean Vanier, vous nous disiez tout à l'heure, quand vous êtes allé pour la première fois dans un hôpital psychiatrique, vous avez entendu le cri de ces personnes handicapées qui disaient « Est-ce que tu m'aimes ?» mais aussi « Pourquoi ? Pourquoi suis-je comme ça ?» Ce pourquoi on se le pose tous, pourquoi une personne va-t-elle naître handicapée, va-t-elle toute sa vie vivre avec différents handicaps? Quelque part, c'est un scandale.
C'est comme la mort est un scandale, c'est comme le cancer est un scandale, c'est comme le cyclone Mitch est un scandale, c'est comme le tremblement de terre est un scandale, c'est comme la guerre civile entre Tutsi et Hutu. Tout est scandale. Et c'est vrai, la mort, la fragilité humaine est scandaleuse.
Beaucoup de gens refusent Dieu à cause de cela.
Oui. Mais le problème, c'est que le scandale existe et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je tourne les pouces? La souffrance est quelque chose de scandaleux, mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, toi, nous tous, nous pouvons réduire la souffrance. Et c'est ça le sens profond de l'être humain, d'entrer dans une lutte pour la justice. C'est scandaleux quand on parle des enfants de la rue qui sont attaqués. C'est scandaleux d'entendre qu'il y a on meurt de faim. Mais c'est à ce moment-là qu'on réagit et on découvre qu'on peut, chacun de nous, faire quelque chose devant la fragilité de l'être humain. Alors là, de découvrir que Dieu n'est pas la cause de toutes ces choses-là, mais que Dieu est en train de dire « c'est pas à moi de résoudre le problème, c'est toi, c'est moi qui dois résoudre le problème ». À mon échelle, à chacun de nous, de lutter pour la justice et pour la paix. C'est l'être humain, la beauté de l'être humain. C'est à la fois sa fragilité, mais aussi c'est cette capacité qu'on a de lutter pour la justice, pour la vérité, pour l'amour. Mais le drame, et peut-être le plus grand scandale, ce n'est pas la naissance des personnes avec un handicap. Le plus grand scandale, c'est ceux qui les refusent, ceux qui les renvoient, ce qui les tue. Le plus grand scandale, c'est que quand on a trop de nourriture et qu'on ne partage pas avec le pauvre, c'est ça le scandale. Le vrai scandale humain, c'est pas qu'il y a des pauvres. Le vrai scandale, c'est qu'il y a des gens qui ferment le cœur à d'autres êtres humains. Moi, j'ai vécu, par exemple, dans une de nos communautés, où on avait 3 enfants avec assez lourd handicap qui faisaient beaucoup de bruit. On nous a demandé de quitter la paroisse, parce qu'on faisait trop de bruit. Bon, nous, on avait une voiture, on pouvait aller dans une autre paroisse. Mais imaginez pour une maman imaginez à l'époque 63, où beaucoup de personnes avec un handicap étaient refusées de la communion. Et que les parents entendaient celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle et mon enfant. Enfin, les parents ont subi des rejets à l'intérieur de l'Église et dans la société. Heureusement, les choses changent. Et il y a quand même, depuis 30 ans, un vaste changement au niveau de l'accueil des personnes avec un handicap dans l'Église et dans la société.
Mais nous sommes quand même dans une société qui n'encourage pas à garder ses enfants, avec tous les progrès de la science, les amniosynthèses, les échographies.
Oui, et au contraire, c'est un rejet. Et en même temps, à cause de l'avortement, beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que la chose normale, et donc vraie, c'est de rejeter une personne avec un handicap par l'avortement. Et donc, par le fait même, il y a un refus de la découverte que cette personne faible est importante. Un enfant est important. Un enfant n'est pas uniquement important parce qu'il va devenir grand. Il est important aujourd'hui. Une personne avec un handicap aujourd'hui, petit comme il est, fragile, il est important.
Mais en quoi une personne handicapée qui peut presque plus bouger est-elle importante pour la société d'aujourd'hui?
Bien, je crois qu'il faut d'abord que nous partons de certains principes. Et au cœur du principe de l'Arche, c'est que toute personne est importante. Qu'il soit en prison, qu'il soit avec un handicap, il y a un principe fondamental qui est la lutte des droits humains. La deuxième chose, c'est que quand je prends une situation comme quelqu'un chez nous, Antoine, Antonio, qui ne parlait pas, qui ne marchait pas, qui ne pouvait pas utiliser ses mains, mais d'une beauté extraordinaire au niveau de son regard, de l'accueil de sa fragilité. Enfin, il avait une capacité, à travers son regard, son sourire, l'accueil de lui-même, l'accueil des gens, son amour a vraiment changé profondément les gens. Ça, c'est une situation assez gratifiante d'être avec Antonio. Mais j'ai visité des hôpitaux, par exemple en Roumanie, où des enfants de 1 ou 2 ans, quand je les touchais, je voulais les prendre dans les bras, c'était comme si j'avais donné un choc électrique. Et ils se sont jetés en arrière. J'ai jamais vécu une expérience aussi terrifiante de toucher un enfant et qu'on a l'impression que c'est un choc électrique et il saute en arrière une certaine distance. Alors là, je ne peux pas dire que c'est visible la beauté de cette personne. C'est ma foi. Et ma foi que cette personne, s'il est bien aidé, il pourrait en sortir. Comme une fille, comme on a accueilli Hélène, qui est aveugle et qui, à 15 ans, a été accueillie dans notre communauté de Manille. Alors, cette fille était complètement apathique, aucune réaction. Et le responsable de la communauté me disait, c'est difficile avec Hélène, il n'y a aucune réaction, ni de joie, ni de colère, etc. Alors, nous avons parlé de la dépression, parce que les enfants entrent en dépression. Et j'ai suggéré qu'elle le touche beaucoup, qu'elle lui donne le bain avec beaucoup d'amour, qu'elle chante. Et j'ai dit, quand elle te sourit un jour, tu m'enverras une carte postale. Et 3 mois plus tard, j'ai eu une carte postale. Hélène m'a souri ce matin. Elle est sortie de la dépression. Et c'est vrai que, objectivement, cette fille en hôpital, complètement enfermée, c'était terrible. Et terrible d'être avec elle, terrible d'être avec quelqu'un, aucune relation, aveugle. Mais en même temps, quand elle a commencé à souffrir, c'était d'une beauté. Alors le problème, c'est de découvrir que notre amour peut transformer les gens.
Jean Vanier, de cette petite maison dans laquelle nous sommes, en 1963, vous avez créé l'Arche. De là est partie de nombreuses communautés de par le monde. Aujourd'hui, il y a, je crois, 109 communautés sur les 5 continents. J'aimerais que vous nous parliez de cette vie intercommunautaire culturels et interreligieux, comme par exemple en Inde, où dans la même communauté de l'Arche, vous avez des hindous, des musulmans, des chrétiens qui vivent ensemble.
C'est très émouvant. Enfin, j'appelle, on avait une communauté à Bethany avec des musulmans. On avait accueilli Khadir. Khadir, c'est une jeune fille de 15 ans, elle avait l'air beaucoup plus petite. Elle avait eu la paralysie cérébrale. Mais cette fille était d'une beauté quand on arrivait ou quand j'arrivais, parce que je le visitais, cette communauté, tous les 6 mois ou tous les 5 mois. Cette beauté de cette fille, d'une pureté, d'une limpidité. Enfin, c'était... Alors, la découverte de la beauté de toute personne avec un handicap. De toute personne, etc. Alors, nos communautés, le passeport pour entrer dans une communauté de l'âge, ce n'est pas le baptême, c'est la souffrance et le besoin. Et ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un comme Khadir ou quelqu'un comme Kashi, qui est hindou, qui vivait dans les rues, qui est après, avec un handicap mental, qui a été accueilli par les frères missionnaires de la charité, et finalement, qui sait, c'est de voir des gens transformés par l'amour, par l'accueil, par le respect qu'on a. Et chacun, on est chacun, à simplement arriver à la plénitude. Une histoire très très belle à Bangalore. Il y a tout dernièrement, il y a 2 ans, on vient en courant disant, il y a un garçon dans la rue, il ne marche pas, il sent mauvais, etc. On l'accueille, c'était évident par ses habits qu'il était musulman. C'était une période où la communauté allait mal et on sentait qu'on ne pouvait pas l'accueillir. Mais les personnes avec un handicap ont dit « oui, on veut qu'il reste ». Et puis on dit « on n'a pas de chambre ». Et une des personnes avec un handicap a dit « il viendra dans ma chambre, on vivra ensemble ». Bon, quelques mois plus tard, on l'a amené aux mosquées. Et puis, soudainement, un cri... De quelqu'un dans la mosquée qui crie ah, « c'est !» Et il citait un autre nom, c'est nous qui avons dit qu'il s'appelait Abdoul. Mais, alors, on a découvert la famille. Alors, c'était un cousin qui est donc venu parler avec nous et quelques jours plus tard, toute la famille musulmane arrive et puis qui sont tellement émus parce que Abdoul commençait à changer, il commençait à marcher, il commençait à travailler, que le père était tellement, tellement ému, il dit « il faut que tu le gardes, mais on restera en contact ». Et c'est ainsi que notre famille va dans la famille d'Abdoul, la famille d'Abdoul vient chez nous, et on découvre que des hommes et musulmans ou des hindous sont aussi des papas et des mamans qui sont pleins de cœur, qui veulent suivre Dieu. Alors, ce n'est pas toujours facile, les communautés interreligieuses, mais en même temps, c'est très beau.
Mais ce qui m'intrigue, c'est que c'est au nom de votre foi chrétienne, Jean Vanier, que vous avez fondé l'Arche, que vous avez ce regard sur la personne handicapée, mais vous vivez avec des gens de traditions religieuses différentes. Dans le respect, je pense que vous ne cherchez pas à les faire changer de religion, à les convertir.
C'est que ma foi chrétienne... me fortifie dans le sens que chaque personne est importante et que chaque personne doit être écoutée et que chaque personne est appelée à être aimée et appréciée et que s'il est de tradition musulmane avec une famille musulmane, il faut l'accueillir. Et c'est de cette façon-là qu'on se rapproche. Je le sens comme étant... pleinement dans la vision de Jean-Paul II à Assise. Il faut qu'on marche avec des gens là où ils sont et les admirer dans leur beauté, dans leur amour, dans leur capacité. C'est Dieu qui change les gens, c'est pas moi qui change les gens.
Mais Jean Vanier, il y a la peur qui est là, qui rôde en permanence, la peur de l'autre dans sa différence, la peur de l'autre d'une autre religion, la peur de l'autre d'une autre race ou d'une autre culture. Cette peur, elle est bien présente.
C'est-à-dire que je crois que toute la croissance de l'être humain, c'est devenir libre, libre par rapport à toutes ces peurs de la différence. Et je crois que ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, Jésus nous appelle à la liberté. Enfin, tout le mystère de la grâce est de nous rendre des hommes et des âmes libres pour accueillir et d'aimer les autres. Je dis toujours que la foi... c'est essentiellement que nos yeux changent et qu'on voit l'autre et l'histoire comme Dieu le voit. Il faut que nos yeux voient la personne, l'autre, comme Dieu le voit. Pas avec jugement, parce qu'il ne s'agit ni de condamner, ni de juger, mais d'aimer. Parce que le regard de Dieu est toujours un regard d'amour. J'étais très, très ému au moment de la mort de Christian de Chergé et les moines. Et je trouvais que ces trappistes, c'est d'une luminosité, d'une beauté. Ces hommes qui disaient « Nous sommes là ». Et les hommes de la plaine, on veut les regarder avec amour. Et les hommes de la montagne, le GIA, on veut les regarder de l'amour. Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir les yeux de Dieu et de regarder chaque personne avec amour. Donc, c'est ça le mystère que nous vivons dans l'interreligieux. Mais c'est partout la même chose. C'est la vie chrétienne d'accueillir chacun comme il est. Moi, je ne suis pas là pour changer quelqu'un, je suis là pour l'aimer. Et c'est mon amour qui change les gens. Et c'est mon amour, c'est l'amour, j'espère, de Jésus à travers moi.
Jean Vanier, à plusieurs reprises, je vous ai entendu dire que la prière est mon oxygène. La prière qui vous fait vivre, qui peut-être vous a fait tenir parfois dans des périodes difficiles.
Oui, il faut découvrir ce que c'est. La prière est peut-être plus... Je vieillis, je dirais plus la prière devient respiration. C'était que la prière, c'est pas de dire des prières, c'est d'être en communion avec Jésus, de vivre en Jésus. Jésus dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Toute la question alors, c'est demeurer en Jésus, laisser Jésus demeurer en nous. Ça rejoint ce que je venais de dire, c'est qu'il faut avoir les yeux de Jésus, mais il faut aussi le cœur de Jésus. Donc la prière, c'est de prendre du temps avec Jésus, de prendre du temps dans la solitude, de prendre du temps dans les sacrements, mais de prendre du temps aussi avec le pauvre, parce que Jésus est caché dans le pauvre.
Mais Jean Vanier, j'aurais une question presque indiscrète à vous poser. Comment priez-vous? Comment faites-vous pour prier? Vous qui souvent voyagez sans arrêt, bougez, rencontrez les uns les autres.
Quand vous êtes avec quelqu'un qui est marié, est-ce que vous lui dites comment aimez-vous votre femme? Pour moi, c'est beaucoup plus de l'ordre d'une vie. Bien sûr, il y a l'Eucharistie, mais je trouve que il n'y a pas de recette pour l'amour, il n'y a pas de recette pour demeurer en Jésus ou de laisser Jésus demeurer en soi. La prière peut-être aussi juste de jouer au dé avec une personne avec un handicap et de perdre. c'est d'être avec des gens, c'est d'être avec Jésus, c'est de laver les pieds des gens, c'est d'être avec des frères et des sœurs en communauté. C'est devenir sensible aussi quand on quitte la présence de Dieu. Parce que tout est quelque chose de rester avec Jésus dans la vie quotidienne. Et ça oblige aussi, ça veut dire qu'il y a des moments de plus grand silence, des moments où je prends plus de temps juste d'être avec Jésus, comme il y a l'Eucharistie, les sacrements, mais aussi il y a des moments où on se réveille au milieu de la nuit et puis on est bien, et puis on reste avec Jésus, c'est tout.
Beaucoup de gens sont intrigué, Jean Vanier, parce que vous êtes célibataire et vous n'êtes ni diacre, ni prêtre. Pourquoi?
Je suis baptisé. Pourquoi? C'est la même chose. Je trouve que on ne sait pas pourquoi.
Vous êtes posé la question quand même, bien sûr.
Oui, mais on suit son étoile. On suit ce que semble être bien pour Jésus. Pourquoi est-ce que j'ai rencontré le Père Thomas et que j'étais bien avec lui? Pourquoi est-ce que je suis vécu avec les personnes? Enfin, j'ai progressivement découvert ce que Jésus voulait pour moi. Et on peut relire après que le fait que je suis laïque me donne une beaucoup plus grande liberté. Par exemple, quand j'étais en Syrie la dernière fois, j'ai parlé à 700 musulmans. sur la personne avec un handicap. J'ai pu parler à l'université du Caire. J'ai parlé une fois au centre Ramakrishna à Calcutta. Enfin, donc il y a mais c'est pas pour ça que je l'ai fait. Mais je vois en arrière, en regardant en arrière, j'ai une plus grande liberté. Mais aussi, je crois simplement que je veux être simplement ce que Jésus veut que je sois. Vivant avec les personnes avec un handicap, c'est ma vie. Et je pense que chacun de nous, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quand quelqu'un qui veut suivre Jésus, il faut qu'il soit tout de suite prêtre ou religieux. Nous sommes tous l'Église. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement pas bien dans la conception qui est dans l'Église. Par exemple, saint Paul dit que l'Église, c'est comme un corps humain, et dans ce corps, chaque partie du corps est différente. Il continue, ces parties du corps qui sont les plus faibles et les moins présentables sont nécessaires au corps et doivent être honorées. Donc, chacun a un service à rendre, chacun a un appel différent au niveau d'une fonction dans l'Église. Et ce qui est important, c'est que nous soyons tous des disciples de Jésus.
Marthe Robin, que vous avez connue, a eu cette phrase, « Les laïcs auront un rôle de plus en plus important à jouer dans l'Église ». Elle disait ça dans les années 50, je crois. Vous pensez ?
Je crois que même là, l'Église, c'est nous tous. L'Église, c'est les gens mariés, l'Église, c'est les religieux, l'Église, c'est... Mais on est tous ensemble. Et c'est de prendre conscience que l'Église est un corps. On n'est pas d'abord une hiérarchie, et quand je prends hiérarchie avec un haut et un bas. Non, on est un corps, et chacun de nous, on est dans le corps avec une fonction différente. Et je crois qu'on est en train de sortir d'une période ténébreuse où il n'y avait que, je dirais, les clergés qui étaient l'Église, qui disaient aux autres ce qu'il fallait faire. Il y a autre chose, il y a la découverte que nous avons tous reçu l'Esprit Saint et que Jésus, et que nous avons tous terriblement besoin des uns et des autres. Nous avons besoin du prêtre, le prêtre a besoin, etc. Je crois que tout le mystère de l'Église, c'est la découverte que nous avons besoin des uns et des autres.
Pensez qu'on a besoin de maîtres spirituels aujourd'hui ?
Moi, je crois beaucoup. Bon, il y a trois choses. Il y a l'information, il y a la formation, il y a la filiation. Et c'est trois choses très différentes. L'information, d'être informé sur tout ce qui se passe. La formation est une structuration qui vient parce qu'on a un certain nombre de connaissances qui viennent et nous structurent. La filiation est quelque chose d'une vie. Et je crois que j'ai reçu une liberté et une vie intellectuelle qui me permet de regarder des événements, d'écouter des musulmans ou des hindous, de lire et d'aimer l'évangile, de regarder l'être humain, d'écouter des personnes avec un handicap, d'aimer les sciences humaines, de travailler avec des psychiatres et des psychologues. C'était que j'ai reçu une très grande liberté à cause de cette filiation intellectuelle, parce que la filiation intellectuelle, c'est la transmission de quelques principes qui sont très importants. Ce n'est pas beaucoup de connaissances, c'est quelques principes importants qui vont gouverner ma vie et ma vie intellectuelle.
Mais où sont-ils aujourd'hui, les maîtres spirituels dans le christianisme ?
Il y en a. Il y a quelquefois des maîtres spirituels un peu cachés, comme Thérèse de Lisieux ou Charles de Foucault.
Mais de fait, vous me citez des gens qui sont morts.
Oui, mais ils ont aussi des disciples. Vous trouvez parmi les petits frères de Jésus, vous trouvez pas. C'est toute personne chrétienne qui découvre qu'il peut donner la vie. Et vous savez que ce soit théologien, que ce soit prêtre, que ce soit des gens qui ont reçu des grâces de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont des maîtres spirituels. Peut-être ils sont moins dans les en-têtes des journaux. Mais je vois beaucoup de gens, par exemple d'ici, de l'Arche, qui sont suivis ou reçoivent des retraites individuelles avec tel ou tel jésuite, telle ou telle religieuse, qui sont vraiment des maîtres spirituels. Peut-être il faut les chercher peut-être un peu plus, mais l'Esprit Saint sait ce qu'il fait. Et puis peut-être les maîtres spirituels sont plus cachés, mais ils sont là. Et peut-être aussi, il faut découvrir que peut-être les pauvres aussi sont des maîtres spirituels.
Rosar shobin tu vare asetar tu vare bit shebosi shegame biskanari krol biti tsevsis beralada debs dakhepshi aksis ose chubi astelas jeratsame harava Save Araba Tabets woko de Sibrepsi, the Bissev Diana Gerdat, Ont Kuatu Haben Sushi, Rogorchai. Tusiz mar mavit sheyisha, tzidan tzama dekhtemi. Dagashala otzimet, lurji ala kadem.
Jean Vanier, un jour lors d'une émission télé, lors d'un enregistrement d'une émission télé, vous avez déclaré « La personne handicapée montre d'une manière très visible la mort ». Et cette phrase a été censurée, elle a été coupée.
Oui, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait... J'avais dit que la peur, c'était une émission par la Sécurité sociale sur le rejet. Et la question qui a été posée, c'est pourquoi on rejette les personnes avec un handicap. Et j'ai dit que très souvent, on rejette les personnes avec un handicap parce qu'on a peur de la mort, on a peur de la fragilité, on a peur de quelqu'un où la mort est plus ou moins installée. Il y a des cellules du cerveau qui ont été atteintes, enfin, le bras est mort, la jambe est morte, enfin, il y a des choses de cet ordre-là. Et les gens ont peur de tout rappel de la mort. C'était en effet censuré quand j'ai téléphoné. En effet, le peuple français n'aime pas qu'on parle de la mort à la télévision. Mais c'est exactement ça. On a peur de la faiblesse. Tout le mystère de l'être humain, c'est le rapport entre force et faiblesse. Est-ce que la faiblesse est quelque chose à rejeter? Est-ce que la faiblesse est quelque chose à écraser? Est-ce que la faiblesse est quelque chose qu'il faut posséder pour avoir un pouvoir? Ou est-ce qu'il y a un rapport particulier entre force et faiblesse qui fait que, en accueillant le faible, je découvre ma propre faiblesse? Et en accueillant la faiblesse, est-ce que je ne découvre pas un mystère de communion, de rencontre entre deux êtres humains, tel que ça se retrouve entre une maman et le petit bébé? Il y a un mystère de force et de faiblesse, mais où l'enfant touche le cœur de la mère et la mère touche le cœur de l'enfant. Et est-ce que tout l'être humain, tout le mystère de l'être humain, c'est de ne pas, n'est-ce pas que c'est de s'ouvrir aux faibles pour accueillir sa propre faiblesse et dans cette rencontre des deux réalités de faiblesse, de découvrir une présence de Dieu?
Jean Vanier, la mort, vous l'avez côtoyée à plusieurs reprises, ici à l'Arche, avec des personnes que vous avez accueillies qui sont mortes. Il y a votre grande amie, Mère Teresa, qui est morte il n'y a pas très longtemps. Est-ce que votre propre mort vous fait peur?
Je dirais aujourd'hui, sûrement pas. Je me sens très... Mais ce que j'ai peut-être plus peur, c'est de la souffrance. J'aime pas la souffrance, ni la souffrance physique, ni la souffrance de l'angoisse. Mais si demain il y a un accident de voiture, ça fait partie de la réalité de ma vie et de nos vies, j'aurai sûrement plus de difficultés avec la souffrance.
Ces deux personnes avec lesquelles vous avez commencé, l'Arche, Raphaël et Philippe, est-ce qu'ils vivent toujours ?
Oui, Raphaël et moi, on a à peu près le même âge. Il est d'une beauté, il n'est pas de la même communauté maintenant. Il a demandé d'aller dans une autre communauté à une quarantaine de kilomètres de Trolley, dans la Somme, à Verpillière. Oh, il va très bien, il est d'une beauté, il a vieilli avec une sorte de sagesse, d'une limpidité. Enfin, et tous ceux qui vivent avec lui le trouvent comme un véritable trésor. Philippe aussi, Philippe est plus jeune, il a souffert plus parce qu'il a une jambe paralysée, un bras paralysé, mais lui aussi, il vieillit merveilleusement bien dans son foyer à Compiègne, c'est-à-dire à une dizaine de kilomètres d'ici.
Et vous nous dites souvent que les personnes handicapées nous enseignent quelque chose. Qu'est-ce que Raphaël vous a enseigné au cours de ces plus de 30 années maintenant?
Oui, Raphaël est devenu vraiment un ami très profond, on ne vit pas ensemble, mais il est lumineux, cet homme. Il est d'une limpidité, d'une pureté, d'une gentillesse avec les enfants du village. Enfin, je crois que tout le mystère de Raphaël et de Philippe, c'est la beauté du cœur humain. Mais, on peut dire tout de suite, quand le cœur humain a été profondément blessé, c'est la peur, c'est la violence. Et il y a des personnes avec un handicap où tout n'est pas simple. Ils ont été tellement blessés, tellement fragilisés par le rejet, que tout ce qu'ils ont appris, c'était le rejet. Et donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de rejeter. Et ça va prendre du temps pour que l'amour les transforme et qu'ils puissent commencer à croire dans l'amour. Et quand on commence à croire dans l'amour, on commence à aimer.
Jean Vanier, merci de nous avoir accueillis.
Merci. Thank you.